Bien, bonjour à tous. Alors, on est ravis de pouvoir discuter un petit peu avec monsieur Fab, qui est du dessinateur donc, sur la série Gudson. Je ne sais pas si je le prononce très bien.
Si, je crois que c'est ça, Gudson.
Donc, qui a été donc, fait en collaboration avec Kovar, Boisserie et Adam. Avant d'en venir un petit peu plus précisément à la série, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter rapidement, et puis même si je pense que pas mal de lecteurs vous connaissent déjà, mais
un auteur qui est là depuis si longtemps que ça finalement, parce que je fais que moins d'une demi-douzaine d'albums, donc ça fait moins de 10 ans aussi que je fais ça. Mais c'est vrai que par exemple celui sur la guerre de 14 a été assez remarqué, j'ai l'impression. J'espère que celui-là aura un peu le même succès. Comme on me présentait, voilà, j'ai fait des jours J, un homme de l'année, donc celui le premier. Et l'obscur Spider. Mais pour lequel je garde une tendresse, puisque c'est mon premier, évidemment. C'était intense, on va dire.
C'est ce qui a lancé un peu peut-être aussi le...
Ouais, c'est là que avec l'éditeur Fred Blanchard, j'ai aussi appris le découpage, le storyboard, tout ça, que je connaissais pas en fait. J'étais lecteur, mais sans être professionnel, donc je me suis formé sur le tas avec lui, et je le remercie encore.
Alors donc, pour en revenir à Gudson, comment est venu ce projet? Comment vous êtes venu à y participer? Comment ça s'est passé
C'est Grégoire Seguin qui m'a proposé le projet. Moi, j'étais pas... Enfin, quand il m'a dit ça, j'étais flatté de travailler avec ces auteurs-là, mais j'avais pas trop envie de faire encore une uchronie. Mais il se trouve que le premier projet que j'avais pour commencer à faire de la BD, c'était j'avais un pitch, c'était une uchronie aussi, où le principe était que Christophe Colomb n'avait pas découvert les Amériques et que du coup les sociétés précolombiennes n'étaient pas précolombiennes puisqu'elles avaient continué à exister et la géopolitique était un peu inversée en fait, les plus puissants étaient... pas ceux qui avaient été détruits par Cortés ou Pissarro. Et donc dans ce projet, il y a aussi les Incas et les Indiens des plaines qui ont pu développer leur civilisation sans être détruits par le colonialisme ou l'impérialisme de l'Europe. Donc je me suis laissé séduire et finalement ça se passe quand même que à Stockholm le premier, mais on va y venir, je pense qu'on va bourlinguer dans cet univers.
On découvre déjà effectivement un petit peu aussi le côté égyptien.
Oui, donc voir de visu dans le tome 3 je pense, j'ai l'impression que ça va arriver.
Donc là en fait on a donc c'est une uchronie ou on est dans un monde parallèle, parce que à la lecture c'est
en fait c'est la même chose, enfin c'est la même chose, l'uchronie est forcément un continuum espace-temps parallèle.
Parce que finalement les deux aspects sont abordés dans le
divergent.
Je pense qu'on aura compris dans tous les cas. En fait, dans l'album, donc dans le premier, là, dans ce qui est le premier volet de la série, on voit qu'il y a on voit que c'est une uchronie, parce que ça, il n'y a pas eu de monothéisme en fait. Donc, du coup, chaque monothéisme s'est un peu développé, chacun un peu dans son
voilà, c'est ça.
Et ce qui était intéressant, c'est que dans le cœur de l'album, ils évoquent aussi vraiment des sortes de mondes parallèles. Parce qu'apparemment, ils ont aussi un peu accès à ce côté.
Oui, ils ont cette technologie ou cette forme de pseudo-science ou de sorcellerie avancée qui fait qu'ils peuvent voir les autres continuums qu'ils peuvent se prémunir contre un développement futur qui les dérangerait. Mais est-ce que c'est pas quelque chose auquel on ne devrait pas avoir accès? Je pense que le premier tome ne donne pas la réponse, mais donne une bonne impression de ce que ça peut donner quand on joue un peu à l'apprenti sorcier avec des technologies comme ça.
Effectivement, il donne en fait sur ce premier volume, on est vraiment mis un peu dans le on met un pied dans cet univers là qui est finalement pas tellement éloigné de ce qu'on connaît, mais qui est à la fois complètement différent. Donc est-ce que ça a été dur à rendre parce que finalement on a l'impression d'avoir des gens qui sont assez proches de nous, et en même temps à côté ça a absolument rien à voir, même s'il y a toujours les mêmes problèmes qui ressortent avec le problème avec les religions, les luttes de pouvoir, etc.
Oui, il y a des traits communs qui sont liés à l'humanité elle-même, qui dans n'importe quelle situation va faire qu'il y aura toujours quelqu'un qui veut prendre le pouvoir et l'exercer sur les autres, etc. Mais après c'est un parti pris pour le côté visuel de la série. Moi j'ai proposé aux auteurs assez vite, lors de notre première rencontre, j'avais déjà fait des recherches graphiques et j'ai rassemblé un peu de documentation pour leur proposer de faire un univers en fait pas légèrement décalé mais visuellement assez reconnaissable, et puis dans certains détails on va se dire ah non, là ça colle pas, c'est pas... Et je trouvais ça plus marrant que de faire quelque chose où il y aurait une omniprésence de ce qu'on connaît de ces mythologies, parce que de toute façon ce qu'on connaît c'est avant le Moyen-Âge, donc c'est pas transposable dans nos époques. Mais j'ai repris un peu d'iconographie pour qu'on ait ce sentiment.
Il y a notamment les moments avec les statues, notamment de l'Égyptienne, qu'on voit aussi pas de bêtises.
Oui, mais alors dans un hangar,
dans un hangar
peu moderne, avec une installation.
Il y a toujours une sorte de. En fait, il y a aussi une sorte de décalage entre le côté ultra technologique et un côté un peu magique et un peu mysticisme aussi, finalement.
Oui. Pour les visions, je voulais dire.
Ouais,
ça c'était un problème, mais en fait c'est expliqué avec une technologie quantique par les auteurs, parce que on a décidé que ça devait rester plus technologique que magique.
Magique, ouais.
Que ça soit un peu crédible dans cet univers un peu contemporain et crédible.
Est-ce que c'était pas un peu difficile justement de le caractériser cet univers? Il est un peu constamment à la frontière de pas mal de choses au final.
Ouais, c'est toujours un peu... compliqué. Ah non, pardon. Désolé. Pas au montage. J'ai essayé dans les costumes, dans plein de choses, d'avoir toujours un côté très reconnaissable, très contemporain, et en changeant un détail, de faire un mélange, plus un léger décalage qui fait qu'on se dit ah oui c'est ça, mais non, pas pareil.
De mon point de vue, c'est pour le coup particulièrement réussi, parce qu'on est vraiment... Il y a un côté justement qui est quand même un peu très SF à ce niveau-là, c'est-à-dire le côté c'est un peu en douceur, mais on est transporté ailleurs finalement, même si c'est pas complètement... C'est pas fait de manière brutale au fait de nous transporter ailleurs. Et je trouve que c'était assez bien réussi. Parce que ça, je veux dire, ça définit un petit peu.
Oui, parce que j'avais vraiment pas envie de mettre des statues de Rodin partout pour être vraiment très dans un univers complètement. Ce qui aurait pu aussi être un parti pris, hein. Mais moi je trouvais ça un peu trop héroïque fantasy et c'était pas la direction que je voulais prendre.
Et donc justement comment ça s'est passé au niveau de la collaboration avec les scénaristes, avec les autres auteurs au niveau du rendu de l'univers, de la façon de la direction que vous vouliez lui donner?
Ils avaient une idée un peu différente je pense parce que dans les premières descriptions de mise en place de Stockholm, il y avait effectivement des statues de dieux partout que je n'ai pas du tout mis sauf dans une case où en fait c'est un peu c'est pas un truc de culte, c'est comme une publicité qui est très connue d'ailleurs à Stockholm pour un dentifrice. Et donc là j'ai rajouté une iconographie parce que j'ai changé le nom pour que ça devienne le fluor des dieux. Faut lire en suédois pour comprendre la blague. Mais,
j'avoue, je n'avais pas du tout.
C'est très. Ouais, non, c'est.
C'est bon, ça va.
C'est en tâche de fond. Quoi.
Mm-hmm. Du coup, c'est l'occasion de relire le volume 1 pour ceux qui l'ont déjà lu, et de lire pour ceux qui ne l'ont pas lu, et de repérer à la recherche de la case
des concernée.
Et est-ce qu'il y en a comme ça d'autres disséminés, ou c'était celle-ci en particulier qui est.
Non, là c'était vraiment. À ce moment-là, j'étais vraiment dans un état d'esprit où il fallait qu'on reconnaisse, enfin que j'ai des vues typiques de Stockholm pour que les gens se disent tout de suite ah c'est Stockholm, mais que je fasse le décalage. Et c'était aussi dans cette case-là l'occasion de satisfaire aussi les auteurs dans leur vœu d'avoir ce côté un peu Seigneur des Anneaux avec des grandes statues un peu imposantes. Mais j'aurais tout de suite proposé d'ajouter des bâtiments avec dans l'esprit du mouvement brutaliste architectural pour avoir ce côté un peu. Autoritaire dans l'architecture de la guilde, et ils ont trouvé ça bien. On est parti là-dessus et je trouvais ça plus subtil que d'avoir des statues de dieux.
C'est vrai qu'il y a peut-être un côté peut-être un peu trop brutal, peut-être, je ne sais pas, mais. On entre moins en douceur dans l'univers en fait finalement. Ce côté-là ressort aussi au début avec la fête.
Ça donne un côté plus authentique.
Il y a un côté moins grandiloquent en fait peut-être aussi.
Voilà, c'est ça.
Qui rend peut-être aussi ce qui rend cet univers plus prégnant en fait.
J'espère.
On prend davantage de peut-être corps comme ça, avec un côté un peu trop, où on en fait peut-être un peu trop. Effectivement. Donc, bon, après, il y a des choix qui s'effectuent et on a le résultat qui est là et qui est très intéressant. Et donc, c'est une série qui est prévue pour s'installer sur la durée, ou il y a déjà un nombre de volumes prévus
L'économie actuelle veut que. On s'est dit qu'on gardait après le troisième où on en était et éventuellement on continue, bien sûr, si ça marche bien, mais sinon ça ira sans doute pas plus loin.
Mais il y a effectivement pas mal de choses à creuser, puisqu'avec les différentes civilisations.
Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire.
D'un point de vue visuel notamment, je suppose que ça doit être un plaisir à travailler d'ailleurs.
Ben, j'ai déjà imaginé que par exemple si on allait en Amérique, les Incas ou même les Indiens des plaines, c'est quelque chose qui s'appuie sur rien, enfin sur un trou de plusieurs siècles. Et donc là, ouais, il faudra faire un sérieux décalage, alors que en Europe on est resté sur quelque chose de très connu, qui s'est développé de la même manière et qui est arrivé à peu près au même résultat. Là, ça sera très différent, je pense.
Bah, y a un gros trou, c'est rempli de mystère.
Voilà.
Du coup, on peut broder dessus aussi. Donc au niveau des projets que vous avez en tête actuellement, des choses qui sont faites, qu'est-ce qu'on peut attendre de votre part à ce niveau-là, quels sont vos projets à venir?
Ah, en bande dessinée.
En bande dessinée, oui.
À venir, j'en ai pas encore, mais avant celui-là, j'en développais un avec un ami réalisateur qui était très intéressant et on n'a pas pu l'intercaler parce que c'est toujours une histoire de droit, mais je désespère pas. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup le faire. Histoire de monde post-catastrophe virale mondiale qui était très intéressant. J'ai déjà fait plein de recherches visuelles qui moi me laissaient penser que le projet pouvait être super intéressant.
Espérons qu'il se réalise.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses. Quelques questions qu'on avait sur cette série, donc on invite à lire parce que c'est intéressant, c'est un subtil décalage avec le monde actuel et puis ça remet aussi en perspective certaines choses notamment autour de la religion et c'est vrai que c'était intéressant.
Ouais, je pense qu'on a besoin de ça là en ce moment.
Notamment. Donc en tout cas, on attend le tome 2 avec impatience et puis on espère.
J'ai déjà fait tout le storyboard, donc ça avance.
Et bien, on vous attend que pour la suite.
D'accord.
Merci beaucoup.
C'était un plaisir.